Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'épisode numéro 144. Cette semaine, c'est un épisode solo où je vais parler de quelques sujets qui ont retenu mon attention au cours de la fin de semaine, une fin de semaine où il n'y a pas eu de Formule 1. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant une fin de semaine sans Formule 1? Ben, j'ai regardé d'autres courses automobiles. Et ça va commencer avec une épreuve que j'attendais depuis presque l'année dernière. C'est le Honda Indy à Toronto, qui est la seule épreuve au calendrier de la saison d'IndyCar qui a lieu à l'extérieur des États-Unis. Donc, Toronto est la seule place en IndyCar où il y a des courses aux États-Unis, à l'extérieur des États-Unis. Et ma foi, ce fut une course assez excitante à regarder. Et d'ailleurs, si jamais vous avez manqué la course dans son intégralité, ben il y a la chaîne YouTube de l'IndyCar qui a des faits saillants de 30 minutes sur la course. Donc, si vous avez un petit 30-35 minutes, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'IndyCar. D'ailleurs, je mettrai le tout sur la page bulletingp.com. Bref, victoire et la première en IndyCar de Christian Lundgaard, le pilote danois de Rahal Letterman Lanigan, a finalement gagné une course IndyCar. Il devient ainsi le troisième pilote de l'histoire de la série à gagner sa première victoire en IndyCar dans les rues de Toronto, le premier étant Adrian Fernandez en 1996, une course qui a été malheureusement marquée par le décès tragique de Jeff Krosnoff et d'un commissaire de piste, et ensuite le regretté Justin Wilson l'a fait en 2005 en gagnant à Toronto, mais les deux étaient dans l'ère Kart Chem Car, et ce avant la réunion de l'IRL et Kart Chem Car en 2008. Bref, Lundgaard est parti en pole, a été impressionnant dans des conditions changeantes lors des qualifications, sa deuxième pole de la saison, mais a été presque pas inquiété jusqu'à ce qu'il y ait la neutralisation dans les 30 derniers tours de la course, mais ça, je reviendrai là-dessus, parce que le départ a été un peu chaotique avec plusieurs pilotes impliqués dans un accrochage dans le premier tour, incluant Graham Rahal, le coéquipier de Lundgaard, et lui, il a été plutôt, comment je dirais ça en bon terme, big brain, parce que dans l'accrochage qui a impliqué Ryan Huntery, Benjamin Peterson, Alex Rossi, Stingray Robbs, Santino Ferrucci et même Jack Harvey et Tom Blomqvist, Rahal, lui, a été capable de passer par le Prince Gate et la zone de dégagement pour revenir en piste. Et ça, c'était un big brain parce que ça n'a... Oui, il y a eu des dommages à son aileron avant, mais il a été en mesure de continuer et ça n'a pas impacté sa course globalement. Et je vous expliquerai pourquoi vers la fin de ce segment IndyCar. Mais bon, on a eu quoi? Une dizaine de 9-10 tours derrière la voiture de sécurité où tout le peloton est passé par le Prince Gate, qui est très beau à voir d'ailleurs en personne aussi, si jamais vous allez dans les environs de l'Exhibition Place, là où se trouve le circuit et tous les environs, genre... bref, c'était une bonne place. Et ensuite, bon, la course a pu reprendre. Ensuite, Lundgaard a été capable de se créer une belle avance devant Scott McLaughlin, qui partait deuxième et qui a gardé sa position. Et en plus, avec des pneus... alternatives, qui genre l'équivalent de pneus tendres à bande verte. Donc, il a été capable de vraiment se créer un gros écart. Et au tour 19, il s'est arrêté pour changer pour des pneus plus durs, donc la gomme primaire, comme ils appellent en IndyCar. Et ensuite, bon, il y a eu Pat Howard qui s'est arrêté. Et ensuite, bon, McLaughlin, lui, a dû continuer vu qu'il avait la gomme dure, donc il a pu rester plus longtemps, mais il n'a jamais été capable d'accroître son avance, non seulement sur Marcus Ericsson qui était deuxième, mais aussi sur Lundgaard, parce que je pense que l'écart restait, se stabilisait à genre 16 secondes. Et ensuite, il y a eu bon, plus quelques arrêts plus tard. Et la course, vraiment, a chamboulé lorsque Romain Grosjean a accidenté sa voiture dans les S avant la ligne de départ arrivée. Et ça, c'est vraiment dommage pour Grosjean parce que moi, je pensais qu'il avait fait un bon début de saison avec une pole, des bonnes positions, des bonnes courses, mais souvent dans le mur. Et ça va très mal pour le Français. Et ça a continué malheureusement à Toronto. Apparemment, il y a eu un problème avec le volant, mais n'empêche, la course était terminée. Donc, ça a amené la deuxième neutralisation de la course. Et lorsque la course est repartie au 46e tour, eh ben, il y a Carl Kirkwood qui a yeeté Helio Castroneves et Kirkwood a été pénalisé avec un drive-thru. Et ça a aussi causé cet accrochage. Le retour de la voiture de sécurité, le full course yellow. Et là, lorsque la ligne des pistes est ouverte, ben, plusieurs pilotes se sont arrêtés, dont Lundgaard pour des pneus primaires avec Pat Howard, Marcus Ericsson, et c'est Scott McLaughlin. Et ce sont les Scott, devrais-je dire, qui sont passés premiers. Scott McLaughlin premier et Scott Dixon deuxième. Et un de mes pilotes préférés, Rinus Vicky, était troisième avec des pneus tendres ou alternatives. Et la course a dû reprendre au 52e tour. Donc, et là, la course a été vraiment effrénée jusqu'à la fin parce qu'il y a, il y a eu Lundgaard qui a dû passer des pilotes. Un beau dépassement sur Colton Herta au virage 5 qui généralement passe un endroit pour dépasser et a même dépassé Alex Palou qui, lui, était à la recherche d'une quatrième victoire consécutive cette saison, mais une quatrième victoire consécutive. Et lui, qui est parti 15e, était en train de faire une belle remontée. Lundgaard l'a dépassé, ce qui a retenu notre attention dans cette course, ça a été en fait que Palou a disputé le reste de l'épreuve avec un aileron avant qui est endommagé, mais le museau était presque sur le point de partir. Et au fur et à mesure, on se pensait, oh, ça sent pas très bon. Je me demandais même quand je regardais la course, à quel moment l'aileron va se détacher parce que ça m'avait l'air vraiment dangereux. Mais oui, le museau se détachait petit à petit, surtout avec le déséquilibre de downforce, d'aérodynamique, mais ça n'a pas été le cas. Palou, bien que dépassé par un Christian Lundgaard qui était en pleine possession de ses moyens, a été dépassé par Lundgaard, mais a été capable de retenir les autres pilotes derrière. Donc, les Colton Herta, Dixon, McLaughlin et compagnie. D'ailleurs, les Scott et Vicky se sont arrêtés au puits pour passer à la gomme primaire pour le restant de l'épreuve. Et moi, je pense que c'était en fait un contact avec... je pense que c'était plus avec le contact avec entre Kirkwood et Castroneves où Palou a eu son aileron endommagé. Il dit qu'il n'avait pas eu de problème, mais tant mieux. parce qu'il finit deuxième derrière Christian Lundgaard qui remporte l'épreuve et Colton Herta qui monte sur le podium pour la première fois de la saison. Vraiment impressionné par la conduite de Lundgaard, dont c'était la première victoire depuis en course automobile depuis le Grand Prix de Toscane en Formule 2. Et ça, c'était en 2020 à Mugello. Et du même coup, c'était la première victoire de Rahal Letterman-Lanigan depuis que Takuma Sato a remporté le Indy 500 au mois d'août 2020.
Oui.
Au mois d'août, évidemment, à cause de Corona et non pas la bière. Mais bref, le podium, Christian Lundgaard, Alex Palou et Colton Herta. Lundgaard, je pense que lorsqu'il a fait son apparition en... je pense que c'était en 2021, si je me souviens bien, quand il avait fait, je pense, une ou deux courses en IndyCar. Je pense qu'il avait commencé d'ailleurs sur le circuit routier à Indianapolis. Il a montré de très bons éclats. Et c'est sûr que Rahal Letterman-Lanigan n'est pas une écurie de haut niveau comme les Ganassi, Penske, Andretti, puis je pourrais même mettre à la limite McLaren. Mais cette équipe, avec de bons pilotes, est capable de réaliser de bonnes choses. Et ça a été le cas avec Lundgaard qui, et plusieurs pensent qu'à un moment donné, il va obtenir un volant avec une des grosses équipes parce qu'il a été vraiment impressionnant cette saison avec une voiture qui est bon pour le milieu de peloton, pour aller chercher des places solides. Et le fait qu'il ait obtenu la pole à Toronto et en plus d'être capable de la convertir en victoire, ça montre que le pilote est vraiment impressionnant. Et même en Formule 2, je l'ai trouvé excellent aussi. Mais il appartenait à l'Académie Alpine. Mais le seul problème, c'est que un autre pilote alpine était dans les rangs et il s'appelle Oscar Piastri, qui lui a tout gagné. F4, F3 et F2. Et il lui a décidé de... Et aussi, sa plus grosse victoire, c'était de faire un doigt d'honneur à Alpine et de s'en aller à McLaren. Mais bon, je digresse. Mais Lundgaard est vraiment... Moi, je commence à l'aimer. J'ai vu plusieurs de ses courses en F2. Et je crois qu'il a... Et il est un très bon talent. C'est juste dommage que... Bon, il n'ait pas pu passer en Formule 1, mais ce n'est pas grave parce qu'il montre l'étendue de son talent en IndyCar, qui est une série où le talent prime d'abord. Alors, je crois que... Et en plus, je pense qu'il a 21 ou 22... Oui, il va avoir 22 ans lors de la prochaine épreuve à Iowa. Mais en fait, le programme double à Iowa, donc la fin de semaine prochaine. Donc, il va avoir 22 ans. Il a encore bien des années devant lui pour parfaire son coup de volant et ça augure très bien pour le Danois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les photos ou les images de sa célébration, mais il a rasé sa moustache qu'il a laissé pousser en raison d'un pari qu'il a fait avec son meilleur ami qui est venu à Toronto, justement pour assister à l'épreuve. Et ça a fonctionné. Lundgaard a rasé sa moustache parce qu'il a gagné l'épreuve. Et juste avant de passer à Alex Palou, je veux juste dire que je parlais de McLaren. Rahal Letterman-Lanigan a une victoire de plus que McLaren en 2023. Ben, en fait, gagné avant McLaren. Let that sink in. Bon, parlons d'Alex Palou, parce que moi, je trouve que si Lundgaard a été impressionnant, Palou l'a été tout autant. Lui qui est parti 15e, une journée, un samedi difficile pour lui, mais quelle course il a connu? Bon, il y a eu une petite touchette avec Romain Grosjean en début d'épreuve. Il y a eu l'aileron avant endommagé dans le contact avec entre Kirkwood et Castro Neves, dont il ne pouvait rien faire. Mais encore une fois, Palou a prouvé que le gars va devenir champion dans pas long. Tout comme Max Verstappen en Formule 1, je crois que Palou va sceller le titre, si tout va bien, avant même la fin de la saison à Laguna Seca. Je crois que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça c'est la conduite d'un champion. Bon, quoi qu'il a été sacré champion en 2021, mais il a prouvé que il va devenir champion dans quelques courses. Et vraiment, une gestion des pneus remarquable de la part du pilote espagnol. Moi, je pense que s'il y avait un titre de pilote du jour, je serais déchiré à le donner entre Lundgaard et Palou. Parce que Lundgaard a fait un sans-faute, soyons honnêtes, c'était un sans-faute. Mais Palou, dans une situation où, même s'il avait une avance confortable sur Joseph Newgarden avant l'épreuve de Toronto, a été capable de limiter les dégâts. Il est parti derrière Newgarden. Il a fini devant le vainqueur des Indy 500 de cette année. Alors, moi, vraiment, je crois que... Et en plus, moi, je pensais que sa journée allait être... Ben, ses chances de podium ou même de victoire allaient être anéanties avec cet aileron. Que ça allait se déchirer à un moment donné et que c'était game over. Mais non, il a été capable de résister à la pression de Herta et compagnie. Alors, vraiment une course vraiment excellente pour Alex Palou. Et mention honorable à Graham Rahal, dont j'ai parlé un peu plus tôt, non seulement... Il a eu un aileron endommagé avec le contact du premier tour et de passer par la zone de dégagement du Prince Gate. Il est parti dernier, en plus, mais il a fini 9e. Alors, les performances de Lundgaard et de Palou, celles de Real aussi méritent une mention super honorable parce que c'était une très belle performance. Limiter les dégâts, était en mesure de faire un sans faute à partir de la relance de la première neutralisation. Rien à redire de la part de Rahal. Et sinon, d'autres mentions honorables. Agustín Canapino, pour la troisième fois cette saison, il termine 12e, ce qui constitue son meilleur résultat. Et c'est une recrue qui arrive du Touring Car en Argentine. Est une sensation en Argentine, d'ailleurs, dans le domaine de la course automobile. Une découverte pour plusieurs en Amérique du Nord, même s'il a déjà roulé en IMSA pour, je pense, une ou deux courses. Mais vraiment, il est impressionnant. Certes, il est à, je pense, à quoi? Une quarantaine de points de Marcus Armstrong qui, lui, a fini 7e, son meilleur résultat de la saison. Canapino est 2e chez les recrues cette année, mais vraiment une belle performance. Peut-être relativement anonyme quand on regarde comment la course est déroulée, l'attention portée sur Lundgaard, sur Palou et même... avec Dix, je pense que c'était avec Ericsson et Power qui ont presque manqué d'essence et qui ont dû rentrer au pied dans le dernier tour. Mais Canapino a fait une bonne course en plus. Alors, je crois que ça mérite aussi une mention très honorable. Donc, c'est très dommage parce que pour Tom Blomqvist, qui pour lui, sa première course en IndyCar aura duré quelques mètres. Blomqvist a remplacé Simon Pagenaud, qui lui a été qui lui se remet de son violent accident lors de la deuxième pratique à Mid-Ohio il y a quelques semaines de cela. Blomqvist qui a roulé pour Mayo Shank Racing en IndyCar, mais qui roule aussi pour Mayo Shank Racing en IMSA dans la Acura. Alors, il connaît l'équipe, il connaît un petit peu l'environnement, et en plus, il avait, je pense, en début d'année testé justement avec l'équipe. Donc, mais pour sa première course en IndyCar, ça n'aura pas duré longtemps. Et d'ailleurs, Pagenaud n'est toujours pas prêt à revenir. Donc, c'est Connor Daly qui le remplacera à nouveau pour le programme double sur l'Oval de Iowa. Daly avait d'ailleurs remplacé Pagenaud à Mid-Ohio lorsqu'il a eu son accident. La prochaine épreuve aura lieu, justement, à Iowa cette fin de semaine. Et fait intéressant, il y aura énormément de spectacles, autant en piste que hors piste, parce que chapeau à Hy-Vee, qui est une compagnie de supermarché, si je me trompe pas, mais qui sponsorise, qui est un sponsor de Jack Harvey, sur la voiture de Jack Harvey, devrais-je dire. Et ils ont mis le paquet pour un programme double à Iowa. Il y aura des spectacles de Carrie Underwood, de Zac Brown, non, pas le Zac Brown, mais du Zac Brown Band. Et surtout, dimanche, ils sont parvenus à inviter Ed Sheeran. Oui, Ed Sheeran dans l'état du maïs. Ouais. Il faut le faire quand même. Mais bon, samedi et dimanche, deux courses à une course chaque à Iowa. Sinon, l'autre course que j'ai regardée, c'était le Hippie de Rome.
Comme disait ma mère, à Rome, on fait comme les Romains.
Il y a eu deux courses à Rome, dans la capitale italienne, et il faisait chaud là-bas. Mais vraiment, il y a eu une course super intéressante, l'autre, un petit peu moins. On va commencer par la course numéro 1. Avec cette victoire de Mitch Evans. Mitch Evans, que je peux appeler l'empereur de Rome, parce qu'il a remporté sa quatrième victoire dans les rues de Rome. D'ailleurs, sa première victoire en Formule E était à Rome, justement. Et Evans a quand même eu une bonne course. Même si, et il est parti en pôle, mais n'a pas mené l'épreuve au complet, puisque Sam Bird a pris les commandes de l'épreuve dès le départ, mais ensuite, consigne d'équipe, c'est Evans qui a repris les commandes. Et au tour 1, Pascal Wehrlein, qui est un prétendant au titre, a eu des dommages à l'aileron avant. Lui qui partait de loin, 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 il a dû rentrer au puits. Ensuite, Bird a pris les commandes au départ, mais Evans a repris la tête, consigne d'équipe, mais a continué à chuter au classement jusqu'au tour 9. Et c'est ce qui a marqué, en fait, cette fin de semaine de course automobile. C'est ce fameux carambolage où Bird, en arrivant vers les virages 6 et 7, qui est une genre de serpentin descendant vers le virage 7, qui est un virage à 90 degrés où vous devez freiner assez fort, Bird a perdu le contrôle de la voiture, a tapé le mur. Et ensuite, il y a Sébastien Buemi qui a tapé Bird. D'Acosta a suivi ensuite. Et je pense que j'ai vu l'incident en direct. Et il y avait, je pense, la caméra embarquée à l'arrière de Bird. J'ai vu une voiture taper une autre. Et c'était celle d'Eduardo Mortara, la Maserati. Et c'était assez affreux à voir. Il y avait Buemi et Mortara qui ont tapé Bird. Da Costa qui a tapé Buemi. Di Grassi, Verlaine et Robin French qui ont eu des dommages en essayant d'éviter la voiture immobilisée de Bird et accidentée même. Et ça a causé automatiquement un drapeau rouge. Et heureusement, personne n'a été blessé dans cet accident parce que ça aurait pu mal se terminer. Et vraiment, chapeau à la Formule 1 et à la FIA pour la conception de cette voiture. Je sais qu'elle peut être laide de vue, mais la structure en tant que telle est assez solide que les pilotes ont pu sortir de leur voiture complètement indemne. Et ça, c'est quelque chose de soulageant. Surtout quand on sait que c'était il y a 2 semaines avec la mort tragique de Dylan Tovantoff lors de la course de Freca à Spa. Mortara à T-Bone Bird. Il n'a pas vu la voiture immobilisée de Bird. Et puis, ça aurait pu mal se terminer, cet accident. On aurait pu avoir des pilotes blessés. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ça a été quoi, 40 minutes d'interruption pour nettoyer les débris, replacer les voitures selon l'ordre. Et ensuite, vers 16h05, la course a pu reprendre. Et ensuite, Evans a mené l'épreuve. Il a carrément raté l'entrée du mode attaque. Il a raté la zone de détection. Ce qui a fait en sorte que Jake Dennis, qui était derrière, a pris les devants. Sauf que, malheureusement, et Dennis a juste eu des problèmes de batterie, tel un iPhone. Je m'excuse à tous les utilisateurs d'iPhone. Mais tel un iPhone SE. Dennis a eu des problèmes de batterie. Donc, ce qui a permis à Mitch Evans et à Nick Cassidy d'être premier et deuxième. Donc, c'était un doublé Kiwi, un doublé de Nouvelle-Zélande. Et en plus, ce sont des rivaux directs de Dennis dans la lutte au titre. Il s'est fait dépasser par Maximilian Gunther sur la Maserati. Et fini quatrième alors qu'il avait Jean-Éric Vergne sur la DS Penske et Nico Müller sur la Abt Cupra en sixième place qui le talonnait. Puis même Müller a tenté un double dépassement sur Vergne et sur Dennis, mais Dennis a été en mesure de revenir devant Vergne et Müller pour sécuriser la quatrième place. Et Evans a donc gagné l'épreuve devant Nick Cassidy et Maximilian Gunther sur la Maserati. C'était la quatrième victoire de Evans à Rome et sa neuvième en Formule E. Et avec sa deuxième place lors de la course 1, Cassidy est devenu le meneur du championnat après Rome 1. Donc, il avait 171 points contre 166 pour Dennis et Evans était troisième avec 151 points après la course 1. Évidemment, la nuit a été assez courte pour presque tous les mécaniciens puisqu'ils ont dû replacer les voitures accidentées en un seul morceau et je leur lève leur chapeau pour cela, pour une soirée éreintante sous les températures chaudes et humides de Rome en fin de semaine. Et ils ont réussi. Ils ont réussi puisque tout le monde a pu participer à la course 2 qui a eu lieu le lendemain littéralement. Et c'est Jake Dennis qui est parti en pole position aux côtés de son rival direct, Nick Cassidy sur la Envision. Et en plus, quand vous obtenez la pole position en Formule 1, vous obtenez 3 points. Donc, l'écart entre Cassidy et Dennis est passé de 5 à 2 après les qualifications. Donc, tout était jouable. Et en plus, il y avait Mitch Evans qui s'était qualifié 5e. Donc, on allait avoir droit à un excellent duel entre les prétendants au titre. Et Pascal Wehrlein, ben malheureusement, encore loin derrière, mais je pense que le titre pour lui, il faudra l'oublier en 2023. Espérons-le qu'il soit meilleur en 2024. Bref, c'était un bon départ des deux premiers. Donc, ils ont gardé leur position. Cependant, je pense qu'ils voulaient juste ne pas mener l'épreuve. Donc, ils ont vraiment voulu laisser. Je me souviens plus c'était qui est quatrième, mais surtout Mitch Evans mener l'épreuve pour sauver, économiser de la batterie, de l'énergie et pouvoir attaquer en fin d'épreuve. Surtout que le circuit urbain de Rome est le plus long du calendrier à, je crois, 3,3 km. C'est plus long que Monaco, mais en plus, les temps autour sont de 1,40 à peu près lors de la course. Donc, ça consomme de l'énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie et il faut y aller vraiment avec de la gestion. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de vraiment ralentir le peloton pour se sauver de la batterie. Mais malheureusement, je pense au tour 3, Evans arrive au virage 7, qui est un des points de freinage les plus importants du circuit, perd le contrôle de sa Jaguar et tape l'arrière des deux voitures, mais principalement celle de Nick Cassidy, et s'est retrouvé au-dessus de la Envision de Cassidy. Si vous vous faites une image, ça ressemble un peu à Hamilton Verstappen au Grand Prix d'Italie de 2021. Les deux se sont retrouvés en fond. Ils ont pu reprendre la piste, mais hors des points et même pratiquement dernier. Cassidy a pu continuer, mais Evans a abandonné, je pense, le tour suivant. Dans une des pièces de William Shakespeare sur Jules César, César a dit, avant de se faire poignarder fatalement, « Et tout, Brutu ?» Ben, je pense que Cassidy a dit, « Et tout, Mitch ?» Bref, on est à Rome, anyways. Bon, trêve de référence littéraire. Ensuite, il y a eu une voiture de sécurité, mais après tout ça, Dennis n'a jamais été inquiété, même si Norman Nato sur la Nissan et Sam Bird sur la Jaguar sont restés relativement proches de lui. Ils se sont même Nato a même tenté de l'attaquer lors de l'épreuve, mais n'a jamais été capable. Mais Dennis a pu mener tous les autres tours pour obtenir sa deuxième victoire de la saison, mais aussi c'est sa première depuis le Hippie de Mexico City, la première épreuve de la saison 2023, mais aussi la première course de la voiture Gen 3 de Formule E. Et en plus, avec Cassidy qui finit hors des points en 14e place et Evans qui a abandonné, ben, pour reprendre les termes du tennis, et parce que c'était Wimbledon en même temps, c'est balle de championnat pour Dennis en arrivant à Londres, qui aura lieu d'ailleurs la fin de semaine prochaine, les 29 et 30 juillet. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Dennis, tout comme Evans à Rome, est un maître du circuit de Londres dans le Excel, qui est un genre de palais des congrès où une partie du circuit est à l'intérieur et le reste à l'extérieur. Alors, Dennis a, depuis qu'il est en Formule E, a gagné au moins une des deux épreuves à Londres puisqu'il s'agit d'un programme double. Alors, Dennis, ce dont il a besoin, c'est de finir la course 1 avec un écart de plus de 29 points pour être un sacré champion du monde, puisque le maximum que vous pouvez avoir sur une course, c'est 29 points, puisque une victoire vaut 25. La pole en vaut 3 et le point pour le meilleur tour, 1 point. Si vous êtes dans le top 10, et c'est ce que Dennis d'ailleurs a fait, et Evans aussi dans la course de Rome. Donc, les 29 et 30 juillet, les deux dernières courses de la saison de Formule 1 en 2023. Et Dennis s'amène avec littéralement la balle de championnat. Mais c'est plus serré dans le championnat des constructeurs. Mais Envision est en tête avec 253 points. Donc, j'ai très hâte de voir, mais j'ai très, très hâte de voir qui va être sacré champion des pilotes. Est-ce que Jack Dennis pourra finalement réussir à devenir champion? Lui qui, en 2021, a manqué malheureusement cette chance après un accident à Berlin. Et c'est Nyck de Vries qui a été sacré champion. Donc, Dennis a l'énorme opportunité d'être sacré champion du monde pour la toute première fois de sa carrière. Sinon, il y a eu des mentions honorables au cours de la fin de semaine parce qu'il y a eu quelques courses aussi, mais j'en ai retenu deux belles performances, entre autres. La première vient de Liam Lawson, donc le protégé de l'écurie Red Bull et potentiellement le candidat numéro un pour un volant chez AlphaTauri en 2024, ou peu importe le nom que l'écurie B de Red Bull va obtenir la saison prochaine. Lawson a gagné au Mont Fuji lors de l'épreuve de Super Formula. C'est sa troisième victoire de la saison et il a battu Tadasuke Makino qui était parti en pole. En fait, ce que Lawson a dû faire, c'est de dépasser Makino grâce à un arrêt un tour plus tôt que son rival. Lorsque Makino est revenu, bien évidemment, il avait des pneus froids, donc ça ne l'a pas aidé pour tenter de se défendre face à Lawson. Et cette victoire de Lawson, combinée à la troisième place de Tomo Miata, fait en sorte que l'écart entre Miata, meneur du championnat, et de Lawson est de 1 point seulement. Et il reste 3 courses à faire. La prochaine épreuve, c'est le 20 août à Motegi, qui est un circuit qui a souvent accueilli les courses de MotoGP. Et il y a d'ailleurs un programme double, je pense, lors de la fin de semaine du Grand Prix du Mexique vers la fin octobre. Je pense que c'est 21 et 22 octobre. Mais il y a un programme double à Suzuka, normalement qui est la dernière épreuve de la saison pour conclure. Et c'est une opportunité pour Lawson d'être sacré champion. Je me souviens encore de la fois où il était en DTM et qu'il se battait pour le titre. Ça a été un shit show en DTM avec, je pense, c'était Sheldon ou Calvin van der Linde qui avait tenté de sortir Lawson délibérément. C'était en 2021 et ça a créé tout un tollé. Et Lawson n'a jamais été capable de gagner le titre en DTM à cause de ces tactiques schumacheresques de van der Linde. Là, il a l'opportunité, Lawson, d'être sacré champion en Super Formula. Mais attention, parce que son rival au titre, Miyama, c'est un double champion de Formule 4 japonaise en 2016 et en 2017. 2017, il a battu un certain Yuki Tsunoda, qui était là, qui a fini d'ailleurs troisième dans ce championnat. Miata, c'est aussi un double vice-champion de Formule 3 japonaise en 2018 et en 2019. C'est aussi un champion de la Super Formula Light, qui est, disons, l'antichambre de la Super Formula, ou pour une comparaison un peu plus directe, c'est l'équivalent de la Formule 2 ou de l'Indy Lights ou Indy Next dans les catégories respectivement de Formule 1 et d'IndyCar. Et en plus de mener le championnat de Super Formula, il mène aussi avec son coéquipier Cho Tsuboi le championnat de Super GT.
Hello, have you a Super GT here?
Non, pas ce Super GT. Le championnat, l'équivalent de DTM, l'équivalent japonaise de DTM, si on veut. Mais je pense que les courses sont disponibles gratuitement sur motorsport.tv. Je vais essayer de trouver ça puis mettre le lien pour regarder les courses si vous voulez suivre Liam Lawson. Entre-temps, d'ailleurs, le 18 et 20 août, je ne pense pas, c'est la pause estivale en Formule 1. Mais si vous voulez regarder des courses, en attendant, ben il y a la Super Formula le 20 août à Motegi, mais évidemment, ça risque d'être en soirée. Sinon, l'autre mention honorable, c'est Valentino Rossi qui a gagné la course numéro 2 à Misano. Lors de l'épreuve de Misano du GT World Challenge Europe, qui est le championnat de GT3 par excellence. Oui, il y a la DTM qui utilise la GT3, mais je pense que la GT World Challenge Europe est plus passionnante que ça, personnellement. Mais Rossi a gagné, a remporté sa première victoire dans cette catégorie avec son coéquipier, le Belge Maxime Martin. Et Rossi conduit la BMW M4 GT3, la Chunky Car, comme je l'appelle, avec l'équipe Team WRT dans la voiture numéro 46. Il était parti troisième sur la grille, un bon départ, mais a profité surtout d'un arrêt au puits catastrophique de l'autre voiture BMW de l'équipe WRT conduite par Charles Wirtz et Dries Van Tour pour prendre les commandes. Donc, et en plus, c'est bien parce que lors de la course 1, Rossi et Martin ont terminé 8e. Et en plus, c'était la deuxième victoire en 2023 pour le nonuple champion de MotoGP, puisque lors des 24 heures du Mans, il a remporté la course 2 de l'épreuve au circuit du Sartre de la série Le Mans Cup, qui est en fait un championnat qui réunit des voitures de type LMP3 et de voitures GT3. Et Rossi était présent pour participer à cette course. Il a gagné la course numéro 2. Alors, pour Rossi, c'est une deuxième victoire sur 4 roues cette saison. Et ce qui est encore plus spécial, c'est qu'il gagne sur le circuit qui est nommé en l'honneur de Marco Simoncelli, qui a été le meilleur ami et un protégé de Valentino Rossi jusqu'à son décès tragique lors du Grand Prix de moto de Malaisie en 2011 sur le circuit de Sepang. Et ça avait vraiment affecté Rossi. Et vraiment, cette victoire, elle est symbolique. C'est aussi le deuxième podium de la saison de Rossi dans ce championnat. Il avait fini deuxième, je pense, dans la course numéro 2 à Brands Hatch en début de saison. Donc, Rossi, qui justement a été signé comme pilote de factory chez BMW, a justement commence à bien faire et sa reconversion en 4 roues compétitives à temps plein fonctionne vraiment bien. L'année dernière, il était chez Audi avec justement Team WRT et ils ont fait le switch vers BMW puisque justement WRT va être l'équipe qui va gérer les opérations de BMW lorsque la marque allemande, bavaroise même, ira au championnat du monde d'endurance dans la catégorie LMP hypercar avec leur voiture LMDH. Et d'ailleurs, Je pense, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il y a une possibilité de le voir justement dans cette voiture, étant donné la connexion entre WRT et BMW? C'est à voir, mais Andrea Rus, le directeur de motosport de BMW, avait déjà confirmé que ce serait le cas. Il va tester la LMDH prochainement. On ne sait pas quand, mais j'ai hâte de le voir. Mais est-ce que c'est trop tôt pour dire, pour penser à lui, pour le voir dans une LMDH, dans la BMW? C'est beaucoup trop tôt à dire. Néanmoins, une belle performance de Valentino Rossi. Et d'ailleurs, encore là, si jamais vous voulez regarder les courses de GT3, parce que c'est une catégorie qui est super intéressante à regarder et c'est tout à fait accessible, c'est gratuit. Vous pouvez regarder les courses gratuitement sur YouTube ou bien visionner les faits ou visionner les courses intégrales si ça vous intéresse. Vous allez sur le compte, sur la chaîne YouTube de GT World, en un seul mot, GT World. Et en temps normal, vous avez la diffusion des courses, que ce soit en anglais, en allemand, je pense même ils l'ont en espagnol, mais ils l'ont surtout en français. Donc, si jamais ça vous intéresse d'écouter de la GT3, c'est tout à fait accessible, c'est gratuit même, c'est disponible en tout temps sur YouTube. Donc, si vous voulez voir Valentino Rossi en action, ben c'est sur GT World sur YouTube. Et d'ailleurs, la prochaine épreuve de la saison, ben ce sera une épreuve d'endurance. Ce seront, les 3 heures du Nürburgring. Dans le championnat, il existe 2 mini-championnats. Il y a le championnat sprint, dans lequel Rossi a obtenu sa 2e place à Brands Hatch et sa victoire à Misano. Et vous avez le championnat endurance, où il y a les 1000 km de Paul Ricard et entre autres, les 24 heures de Spa qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Et finalement, pour compléter cet épisode pêle-mêle, il n'y avait pas seulement de la course automobile compétitive, il y avait aussi le Festival of Speed de Goodwood, qui est un événement annuel de démonstration de voitures, de courses. Et évidemment, il y avait tellement de belles voitures, entre autres. Il y avait la NASCAR... la nouvelle génération de NASCAR, la Garage 56, qui a participé récemment aux 24 heures du Mans. Il y avait Jenson Button et Mike Rockefeller qui étaient présents pour brûler des beignes. Il y avait la Porsche Hypercar qui a été donnée à l'équipe Jota, qui participe présentement au championnat du monde d'endurance, et ce pour célébrer les 75 ans de Porsche. Et vous avez même la Mercedes de 2011 qui a été conduite par Michael Schumacher et son fils Mick a eu la chance de la conduire. C'était beau à voir. Mais surtout, ce qui a retenu l'attention, c'est la présence de la McLaren MP4 8 de 1993 et la Williams FW14B de 1992, conduite par un certain Sébastien Vettel. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un quadruple. On m'a dit que c'est un quadruple champion du monde de Formule 1. Intéressant. Mais il l'a conduite avec le carburant de synthèse P1 Fuels, parce que Vettel, évidemment, veut courir avec des carburants de synthèse pour justement prouver que c'est possible de faire de la course automobile avec des carburants de synthèse sans nécessairement être un fardeau écologique. Parce que, et justement, ça a été quelque chose que Sébastien a amené lors du festival de vitesse. Il craint que la course automobile soit banni par certains gouvernements parce que ce n'est pas assez écologique. Et je pense que, aussi inconfortable que ça peut être pour certains, je crois qu'il n'a pas tort. Même si la Formule 1 émet genre la pollution des voitures de Formule 1 et 1% des émissions de CO2 globalement, parce qu'on sait que le problème, c'est logistique. C'est un problème de logistique. Mais il faut que la course automobile soit en mesure de s'adapter ou sinon, elle va disparaître tout court. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Et oui, les changements climatiques, c'est quelque chose de sérieux. Extrêmement sérieux. Je pense qu'il est temps que les instances de la course automobile fassent vraiment quelque chose de vraiment sérieux. Je sais que la Formule 1 veut viser la carboneutralité d'ici 2030. OK. Mais il y en a beaucoup plus. Et d'ailleurs, pour revenir justement dans le thème de courir avec des carburants de synthèse, ben Vettel le fera aussi avec la Red Bull de 2011, avec laquelle il a gagné son deuxième championnat du monde des pilotes en septembre sur le Nürburgring et le Grünhohle, le diable vert, le Nordschleife. Ça va être à suivre, mais pour vrai, je pense que la discussion concernant la course automobile et les changements climatiques doit continuer à être mise de l'avant, même si ça nous rend inconfortable, même si on ne veut pas en entendre parler, c'est indéniable. Sur ce, c'est ce qui complète cet épisode du bulletin GP. Donc, j'ai passé quand même presque une heure à parler tout seul. On a l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de Hongrie qui aura lieu cette fin de semaine. C'est un week-end normal et on reviendra là-dessus avec Marc-André Fortin qui sera présent. Ce sera disponible dimanche sur toutes vos plateformes de podcast préférées, comme cet épisode. On est sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres plateformes où vous écoutez vos épisodes. On est aussi disponible sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, relativement Instagram et même Threads, @lebulletingp en un seul mot, donc le même nom de compte pour ces quatre réseaux sociaux. Et nous vous invitons toujours à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace, où vous pouvez échanger avec tous les fans de Formule 1 au Québec et un petit peu même dans le monde sur notre passion pour la Formule 1 et la course automobile. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté pendant presque une heure tout seul. Mon nom est Abdou Sahal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve dimanche pour l'épisode d'après-course du Grand Prix de Hongrie. Salut tout le monde!